lire quelques textes de la parole, tout d'abord dans le livre du prophète Ésaïe. Au chapitre 53 et au verset 11. Il est dit ceci: « À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nom des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Amen. Et puis nous allons dans l'évangile de Luc, au chapitre 23, et au verset 32. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit: « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant: « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même s'il est le Christ, l'élu de Dieu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient: « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription: « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs crucifiait l'injurier, disant: « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait: « Ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus: « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit: « Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Amen. Voilà, nous avons lu tout d'abord ce premier texte dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe a rédigé son écrit environ 7 siècles avant la venue de Jésus. Voilà. Et dans ce chapitre 53, eh bien, il prophétise, bien sûr inspiré par le Seigneur, guidé par le Saint-Esprit, quelles seront les souffrances, quelles seront les douleurs que subira le Messie, qui sera rejeté par son peuple. Et en particulier, il précise quelque chose: il sera mis au nombre des malfaiteurs, sera mis au nombre des brigands. Et cette prophétie, mes amis, 7 siècles après cet écrit, elle s'est réalisée à la lettre, puisque, comme nous l'avons lu, Jésus fut crucifié entre deux brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. Il était effectivement mis au nombre des malfaiteurs, parce que la crucifixion, c'était généralement un supplice que l'on réservait, si je puis dire, aux esclaves et aux grands criminels, aux malfaiteurs. Ce fut donc le cas de Jésus, fut mis au nombre des malfaiteurs. Il est question là de ces deux hommes, ces deux dont on va parler, qui s'étaient associés, vous voyez, deux comparses, pour commettre ensemble, conjointement, les mêmes crimes. Il y a un proverbe, pas dans la Bible, mais dans la vie courante, qui dit « qui se ressemble, s'assemble ». Vous avez entendu ça déjà? Donc c'était leur cas. Et ils étaient l'objet de la même condamnation. Je suppose qu'après enquête, les forces de la police de l'époque les avaient identifiés, les avaient interpellés, incarcérés, le procès avait eu lieu et condamnés à mort. La croix. Et tous deux, donc, par la providence divine, furent crucifiés en même temps que Jésus. Donc l'un et l'autre a été confronté avec la personne du Christ. Mais vous l'avez remarqué à la lecture, chacun des deux a eu, par rapport à Christ, une attitude différente l'un de l'autre. Le premier, nous dit la Bible, il injuriait Jésus, disant, mais tu n'es pas le Christ. Il avait dû l'entendre dire, ça. Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voilà. Il est là, il injurie, il insulte, on peut dire il blasphème même le Seigneur. Et il y a bien des gens qui ressemblent à cet homme aujourd'hui, dans le sens que Jésus, eh bien, on en fait un sujet de moquerie dans certains chants, chansons du monde, dans certains spectacles. Hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler en son temps, ça fait quelques années, de Jésus-Christ superstar, blasphématoire, tout ça. Donc il ressemble à cet homme. Il est aussi dans une attitude d'incrédulité. Voilà, si tu es le Fils de Dieu, ce dont il doute, bien sûr, si tu es le Fils de Dieu, eh bien, prouve-le. Allez, sauve-toi et sauve-nous. Et ça aussi, il y a bien des gens qui ont une attitude un petit peu comparable. Hein? S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tant de malheur. Hein? Il n'arriverait pas ceci, il n'arriverait pas cela. Et puis, si Dieu existe, eh bien, il n'a qu'à me tirer d'affaire. Et puis, tout ça, c'est des histoires. Moi, j'y crois pas. Voilà dans quel registre était cet homme. Et voilà le registre dans lequel beaucoup se trouvent. Et puis, le second, c'est sur lui qu'on va s'attarder quelques instants. Il reprend son comparse. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation. Alors s'il lui dit « Ne crains-tu pas Dieu ?», s'il l'interroge, c'est que lui, il a la crainte de Dieu. Il a la crainte de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. C'est que le commencement, mais il faut bien commencer par quelque chose. C'est le commencement de la sagesse. Pourquoi est-ce qu'il craint ? Il craint à juste titre. Il craint à juste titre parce qu'il sait. Je ne sais pas s'il avait été à la synagogue, dans son enfance, comme tous les petits juifs de l'époque le faisaient, et on lui avait appris que Dieu était saint, que Dieu était parfait, et que, étant saint, Dieu ne pouvait pas tolérer dans sa présence des pécheurs, des gens qui avaient désobéi à sa parole. Alors, il sait que Dieu est saint, et que lui, eh bien, il ne l'est pas. Alors, il craint Dieu. Il a raison. Parce que l'Écriture dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Hein? Et il est aussi dit dans la Bible que notre Dieu, c'est un feu dévorant. Voyez? Et il y a des gens qui sélectionnent les attributs du Seigneur. On parlait tout à l'heure dans notre étude biblique des attributs de Dieu. Alors, il y a des gens, ils ne veulent se souvenir que du fait que Dieu est bon. Dieu est amour, Dieu est compatissant, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Et c'est vrai, mais Dieu aussi est saint et il est juste. Et la Bible dit qu'il ne tient pas le coupable pour innocent. Donc cet homme, voyez, prenant conscience de cette réalité, il craint Dieu. Il craint Dieu parce qu'il n'est pas du tout prêt à le rencontrer. Et il sait que, eh bien, dans quelques minutes, dans quelques heures, tout au plus, il va mourir. Il va comparaître devant Dieu. Et il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et lui, il n'est pas prêt. Alors, il ajoute ceci en s'adressant à son compère, à son comparse. Pour nous, c'est justice. Car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Vous avez remarqué que les crimes, c'est au pluriel. Donc vraisemblablement, lui et son collègue, ils avaient commis plusieurs crimes. Et ils avaient vraiment un passif très lourd. Ils avaient un poids conséquent qui pesait sur leur conscience. Et cet homme, voyez, là, publiquement, parce que ça s'est passé en public, hein, pas en catimini, la preuve c'est que ça a été consigné dans la Bible. Il avoue, il confesse, il déclare, sans chercher d'excuses, la gravité de ses actes. Il ne cherche pas à biaiser, à invoquer des circonstances atténuantes. Non, il dit, voilà, nous sommes des criminels. Et si nous subissons un tel châtiment, la croix, eh bien, c'est ce que nous méritons. Dites, c'est particulier ça. Il réalise que si les juges humains l'ont justement condamné, à plus forte raison, s'il en reste là, dans l'état où il est actuellement, à plus forte raison, le juge suprême le condamnera-t-il. Voilà pourquoi il craint. La crainte de Dieu, j'en reviens à ça, c'est le commencement de la sagesse. Et voyez, frères et sœurs chrétiens, il nous faut prier pour que le Saint-Esprit suscite la crainte de Dieu dans le cœur des gens. Parce que c'est ce qui va les inciter à se tourner vers Dieu. Pour obtenir, comme cet homme l'a obtenu finalement, la miséricorde, le pardon et en fait le salut. Par contre, s'il reconnaît sa culpabilité, celle de son collègue, il affirme l'innocence de Jésus. Celui-ci, là, qui est tout près de nous, à quelques mètres, Jésus de Nazareth, lui, il n'a fait aucun mal. Il n'a rien fait de mal. S'il meurt, Jésus, s'il est crucifié, c'est pas pour ses propres péchés. Il n'en a commis aucun. Mais s'il meurt, s'il est crucifié, c'est pour les péchés des autres, en fait de tous les hommes, et en particulier les siens à lui, brigands. Et ce qui est vrai pour lui, ce qui était vrai pour lui, c'est vrai aussi pour nous. Jésus a dû mourir pour moi, vous savez ça? Jésus a dû mourir pour toi. Hein? Tout à l'heure, on l'a lu, là, dans le chapitre 53, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. En fait, il a porté le péché de tous les hommes. Un texte de l'Écriture dit qu'il est mort en rançon pour tous. Il est mort en rançon pour tous. Et puis cet homme, il prie. Il s'adresse à Jésus. Vous voyez ? Alors il n'essaie pas de dire, voyons, quand j'étais petit, on m'a appris une prière. Je vais la répéter. Ça pourrait marcher peut-être. Hein? Le Notre Père, ou je ne sais pas moi, l'acte de contrition, le Je vous salue Marie, enfin, un tas de choses comme ça. Non. Il prie avec son âme, avec son cœur, j'oserais dire, avec son être tout entier, quoi. Il prie, il s'adresse à Jésus. Et cette simple prière, elle n'est pas longue, sa prière. Cette simple prière, mes amis, va lui permettre de changer de destinée. Alléluia. Il était sur un mauvais chemin, ok? Il se dirigeait à grands pas vers l'enfer. Il n'y avait que quelques heures entre le moment présent et l'enfer. Et puis tout à coup, parce qu'il a prié comme il a prié, il a changé de direction et il s'est dirigé vers le paradis. Il y a eu comme un aiguillage, vous savez, hein? Lorsqu'un train est sur une voie, voilà, il y a dans une cabine un homme, un employé de la SNCF, qui par une simple manette, a la possibilité de faire en sorte que l'aiguillage se déplace et que le train qui allait dans cette direction puisse changer de direction. Eh bien, lui, il y a eu pas une erreur d'aiguillage, hein, un bon aiguillage. Il se dirigeait vers l'enfer et maintenant il se dirige vers le paradis. Ça mérite réflexion, ça. vers quoi est-ce que je me dirige? Vers quoi est-ce que je me dirige? Alors, lui, on dit, il n'en avait plus que pour quelques heures, d'accord? On ne sait pas, hein? Peut-être on n'en a plus que pour quelques heures, pour certains. Quelques jours, quelques mois, quelques années. Mais enfin, on sait très bien qu'un jour, le terme arrivera. Voilà. Sans risque de me tromper, je peux prophétiser que nous allons tous mourir. Simplement, on ne sait pas quand. Lui, il savait que d'ici très peu de temps, quelques heures, quelques jours, parce que parfois les crucifiés ils vivaient plusieurs jours, eh bien c'était fini. Mais écoutez sa prière, très simple, très brève. Vous voyez, Jésus a dit avec vérité qu'il ne faut pas être comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ce n'est pas en répétant des choses comme des perroquets qu'on va impressionner Dieu. Ce n'est pas en utilisant un vocabulaire théologique, savant, qu'on va impressionner Dieu. Non! Ce qui impressionne Dieu, c'est un cœur qui s'ouvre. C'est un cœur qui est vrai et sincère. Sa prière, elle dit ceci en s'adressant à Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Tout est dit là. L'essentiel est dit en peu de mots. Vous voyez ? D'abord, il invoque le Seigneur. Il fait appel à Jésus. Il ne veut pas d'autre intermédiaire que Jésus lui-même. Souviens-toi de moi. La Bible dit que celui qui invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Qu'est-ce que c'est invoquer ? Invoquer, c'est prier. Invoquer, c'est supplier. Invoquer, c'est appeler à l'aide. Invoquer, c'est implorer pour être sauvé, pour être pardonné. Ce qu'il fait, il ne fait pas sa prière quotidienne. Il prie, il invoque Dieu avec un objectif précis. Il veut s'en sortir. Il se sait perdu, mais il veut être sauvé. Il sait qu'il marche vers l'enfer, mais il veut changer d'orientation et pouvoir être convaincu que maintenant il se dirige vers le ciel. Si vous n'avez pas invoqué Dieu comme il le fit, faites-le, mes amis. Invoque-moi, dit la Bible, au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous savez, la plus grande de toutes les détresses, eh bien, c'est d'être perdu. Il peut y avoir diverses formes de détresse. La maladie, le deuil, la dépression nerveuse, je ne sais pas moi, hein, la précarité, tant de choses qui constituent des détresses. Mais la plus grande, la plus tragique de toutes les détresses, c'est d'être perdu. Invoque-moi au jour de la détresse. Si vous êtes dans cette situation de détresse intérieure, invoquez Dieu. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. L'Écriture dit que Dieu est près de ceux qu'il invoque. Attention, de ceux qu'il invoque avec sincérité. Avec sincérité. Tiens, à propos de sincère, vous savez ce que ça veut dire, sincère? Ça veut dire sans cire. Parce que aux temps antiques, lorsque un sculpteur faisait par exemple une statue ou un vase, quand il avait un coup de maillet et de ciseaux à pierre malheureux, tchac, ça faisait un petit éclat. Alors, pour masquer le défaut, il mettait de la cire dans le trou. Et quand il vous vendait la statue ou le vase, voilà, il paraissait beau, le vase, il paraissait belle la statue. Mais quand vous mettiez ça au soleil, la cire fondait et le trou apparaissait, vous comprenez? Et les sculpteurs honnêtes garantissaient que leur travail était sans cire, sincère, voyez, sans camouflage, sans tricherie. Eh bien, mes amis, nous aussi, il faut qu'on soit sincère, sans camouflage, sans tricherie avec Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas tricher avec Dieu parce qu'il voit tout. Et la prière de cet homme, elle était éminemment sincère. Puissiez-vous l'imiter. Voyez, cette prière, c'est aussi l'expression de la foi. Dites-moi, ce qu'il dit, c'est formidable. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Qui c'est qui règne? Qui c'est qui règne d'habitude? Un roi, non? C'est un roi qui règne. Hein? Voilà. Eh bien, il voit en Jésus un roi, lui, le brigand. Les autres là, tous les autres, les soldats, la foule qui passe par là, qui assiste à ce triste spectacle de la crucifixion, les magistrats qui ont condamné Jésus, qui d'autres encore, le premier brigand, tenez, ils se moquent de Jésus. Si tu es le Christ, ah, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le roi des Juifs, alors, allez, descends de la croix. D'ailleurs, au-dessus de la croix, il y avait cette inscription que Pilate avait fait écrire. Et sans s'en apercevoir, il avait été inspiré, Pilate. Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Et c'était vrai. Mais tous les autres ne le croyaient pas, tandis que lui, le brigand, il en était convaincu. Il avait la foi. Il avait la foi, n'est-ce pas ? Jésus, il le croit, c'est le Messie, le Christ, le Sauveur, le Fils de Dieu, l'envoyé du Père. Et il croit aussi que Jésus reviendra un jour. Amen, vous le croyez aussi ? Qu'il reviendra établir son règne universel. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. C'est vrai, Jésus reviendra un jour. Non plus dans l'humiliation, l'abaissement et la souffrance, comme ce fut le cas lors de son premier passage sur la terre, mais il reviendra dans la gloire, alléluia, dans la puissance, accompagné de tous ses anges. Et ce jour-là, les moqueurs seront confondus. L'Écriture dit que le temps viendra où tout genou fléchira et toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Alors on peut se dire, mais comment ça se fait que les autres n'ont pas cru et que lui, il a cru? Comment ça se fait que les autres sont demeurés hostiles à Jésus, se moquant de lui, et que lui, il a invoqué Jésus, il a fait appel à lui, n'est-ce pas? Comment ça se fait? Comment il est arrivé à ça? Comment il a cru, il a réalisé que Jésus était bien ce qu'il affirmait être et non pas qu'il était un imposteur? Je pense que la renommée de Jésus lui était parvenue. Vous savez, Jésus était connu comme celui qui faisait des miracles. À Jérusalem, quand il est arrivé, il y a eu des miracles. Dans le temple, les boiteux, les aveugles se sont approchés de lui. Ils ont été miraculeusement guéris par l'attouchement du Fils de Dieu. Et tout ça, tout Jérusalem en parlait. Donc, même au fond de sa prison, en attendant son exécution, cet homme a dû avoir vent de ces nouvelles. Jésus de Nazareth, le faiseur de miracles. Et puis, voyez, il a aussi été témoin de la dignité de Jésus. Face à l'injustice, face à la souffrance qu'il subissait, face à la mort. D'habitude, quand un homme était crucifié, il injuriait ses bourreaux, il se débattait, il hurlait, il criait. Lui, pas du tout. Il prie pour ses bourreaux, dites. Il a entendu ça, le brigand. Jésus disant, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et enfin, ce qui lui a permis de réaliser que Jésus était bien le Fils de Dieu, le Messie, le Christ, c'est la révélation divine. On ne peut pas parvenir à la connaissance de Dieu simplement par notre jugeote. Il faut que Dieu se révèle, c'est-à-dire qu'il lève le voile, qu'il se fasse connaître à nous, qu'il en prenne l'initiative. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Et il ne se révèle pas aux plus vertueux, forcément, mais même parfois au pire. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Hein. Qui eût dit que cet homme se convertirait? Un jour, quand vous irez dans le ciel, vous rencontrerez un monsieur et vous dira, hé, le brigand là sur la croix, vous savez, c'était moi. Enfin, c'était. Hein. Et vous pourrez discuter le coup avec lui et puis il vous en racontera peut-être un peu plus. Incroyable ça. Dans les faits divers, là, ces temps-ci, on a appris qu'il y a des gens qui ont commis des crimes affreux. Et si on réfléchit, on se dit, il mérite qu'on leur coupe la tête, cela, hein, même si on ne le fait plus en France. C'est affreux, ce qu'il a fait, cet homme, oh, ça me remplit de colère, à juste titre, quelque part. Est-ce que nous aurions dire, mais cet homme-là, il peut aller au ciel, dites. Pourtant, c'est ce qui est passé. Ce n'était pas un enfant de cœur, ce brigand. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Donc, il devait avoir du sang sur les mains, du sang sur la conscience. Et Dieu s'est révélé à lui. Jésus dira, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux enfants. Le Seigneur ne se révèle pas forcément aux meilleurs, je l'ai dit, mais parfois aux pires. Pas aux plus brillants sur le plan intellectuel, cérébral, qui peuvent tout expliquer, tout comprendre. Non, il se révèle à ceux qui font preuve de simplicité de cœur. Et quelque part, cet homme a eu cette simplicité. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Les autres se moquent, blasphèment. Les soldats ont craché sur Jésus. Ils ont fléchi le genou par dérision devant lui en lui disant « Salut, roi des Juifs !» Ils l'ont couronné, mais d'une couronne d'épines. Mais lui, il croit qu'il est vraiment ce qu'il affirme être, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et la réponse de Jésus vient. Dites, quelle réponse? Écoutez ça. « Je te le dis en vérité. » Ça s'adresse au brigand, là, hein. Je te le dis en vérité. Quand Jésus parle, c'est vrai. C'est toujours vrai. Même ses ennemis étaient obligés de dire, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de la vérité sans t'inquiéter de personne. Tu ne parles pas pour plaire aux gens, tu parles pour dire la vérité, pour exprimer ce qui est la stricte vérité. En vérité, je te le dis, c'est vrai, c'est sûr, c'est pas une supposition, c'est pas une illusion, c'est brigand, une formidable certitude que je te communique aujourd'hui, pas après avoir passé un stage au purgatoire, il y a des gens qui croient ça, que si on n'est pas, comment il faut dire, assez bon pour aller au ciel, mais pas assez mauvais pour aller à l'enfer, on va pendant quelque temps se situer dans un milieu intermédiaire qu'on appelle le purgatoire pour purger une certaine peine, voyez, et que lorsque nous serons soumis à cette discipline un certain temps, finalement, peut-être, nous accéderons au paradis. Jésus, rien de tel. Aujourd'hui. Vous voyez? Et même les chrétiens, ils ont besoin de savoir ça. Quand un chrétien décède, où c'est qu'il va? Avec le Seigneur. Direct. L'apôtre Paul dit ceci dans l'une de ses épîtres. J'ai le désir de m'en aller, vous voyez? Il n'était pas attaché aux choses de la terre. Son cœur était orienté vers les choses du ciel. J'ai le désir de m'en aller, c'est-à-dire de mourir, de partir, de quitter cette terre, et d'être avec Christ, ce qui, de beaucoup, est le meilleur. Quand un chrétien décède, il va direct avec Jésus. Alléluia. Il y a des gens qui pensent que, vous voyez, c'est une petite digression, qui pensent qu'entre le moment de la mort physique et le moment de la résurrection, quand Jésus reviendra, il y a des gens qui pensent que le croyant, il est dans un état d'inconscience, de sommeil de l'âme, comme disent. C'est faux, mes amis. Quelqu'un qui décède dans la foi en Christ, il part avec Jésus. Alléluia. Il part dans la présence du Seigneur. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur, pour jouir de la présence et de la consolation qu'offre le Seigneur. Aujourd'hui donc, tu seras avec moi dans le paradis. Dans le paradis. Pour y aller au paradis, qu'est-ce qu'il fallait avant? Il fallait avant que ses péchés soient pardonnés. Parce que dans la Bible, il est écrit que rien d'impur au paradis, au ciel, au royaume des cieux, rien de souillé n'y entrera. Donc il fallait que les péchés nombreux de cet homme, les péchés affreux de cet homme, soient pardonnés, soient effacés, et ils l'ont été. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que le pardon, il est offert à tout le monde. On dit qui peut le plus, peut le moins. Donc si Jésus a su pardonner, sauver ce brigand, ce voyou, ce gangster, ce criminel qui avait du sang sur les mains, qui avait tué, qui avait fait pique-pam, à plus forte raison, vous qui n'êtes pas des criminels, je ne pense pas, peut-il faire de même pour vous, vous pardonner et vous sauver, quelle que soit la mesure, l'ampleur ou la gravité de vos péchés. Certains s'en étonnent, vous voyez ? Certains s'en étonnent, ils disent comment ? Un homme comme ça, il est au ciel ? Et moi qui suis un brave homme, une gentille dame, j'irai en enfer ? Ma belle-mère, elle ne comprenait pas ça. Elle ne comprenait pas que Jésus avait dû mourir pour elle, tout autant que pour le brigand. Ah non, ça ne rentrait pas. Et puis un jour, dites, autour d'une tasse de thé ou de café, un matin, vous voyez, au cours du petit déjeuner, on a parlé des choses de Dieu et son cœur s'est ouvert. Alléluia, vous voyez. Il y a des gens qui pensent que pour se convertir, il faut être dans une réunion d'évangélisation, de 16h à 17h, il n'y a que là que le Seigneur agit. Mais non, il peut agir au petit déjeuner, il peut agir le soir, le matin. Et là, son cœur s'est ouvert, elle a fait une démarche vers Dieu. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Et oui, Jésus, il a donné sa vie pour tous les pécheurs, les grands, les plus coupables, et puis j'hésite à employer le mot, les petits pécheurs, ceux qui estiment ne pas avoir grand-chose à se reprocher, mais vous savez, un seul péché peut vous fermer la porte du ciel. D'ailleurs, l'Écriture dit quelque part que celui qui pèche contre un seul commandement, il se rend coupable de tous. Certains s'en étonnent, mais le sacrifice de Jésus est absolument efficace et suffisant pour que les péchés de tous ceux qui mettent leur foi en lui comme fit le brigand soient totalement et définitivement pardonnés et effacés. Alléluia ! C'est aussi possible pour vous, béni soit Dieu. L'Écriture nous apprend que Jésus est mort avant le brigand. Parce que c'était le sabbat qui allait arriver et il ne fallait pas que les corps restent là, sur la croix. C'était une impureté rituelle pour les Juifs pendant le sabbat. Ils étaient prêts à faire mourir Jésus, un innocent, mais il fallait que la loi de Moïse soit respectée dans les formes. Alors, ils ont été vers Ponce Pilate, le gouverneur romain, pour lui dire, il faut quelque chose, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il meure avant le sabbat. Quand les soldats sont arrivés, Jésus était déjà mort. Mais pas les brigands. Alors, les brigands ont pris un maillet ou une barre de fer. Et ils ont brisé les jambes du brigand. Et les jambes étant brisées, le corps s'est affaissé et très rapidement, l'asphyxie est venue et ils sont morts. Donc Jésus, lui, il était déjà mort et on n'a pas pu lui briser les jambes. Et ça aussi, c'est une prophétie parce que l'Écriture dit « Aucun de ses os ne sera brisé ». Donc Jésus est mort avant lui. Il l'a précédé dans le paradis. Ok ? Il l'a attendu là-haut quelques heures. Pourquoi faire ? Pour l'accueillir. Vous savez que Jésus nous a précédés dans le ciel ? Et qu'est-ce qu'il fait dans le ciel ? Eh bien, il se prépare à nous accueillir. C'est pas moi qui le dis. Regardez, on va le lire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1er. Évangile de Jean, chapitre 14. C'est Jésus qui parle. Que votre cœur ne se trouble pas. S'il y avait quelqu'un qui était troublé là, cet après-midi. Écoutez ça. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Je vous précède là-haut et je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Ça vous est pas arrivé qu'un ami vous téléphone et vous dise « Hey, dans 2 jours, je viens te voir. Tu peux me loger ? Ok, pas de problème. » Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On passe l'aspirateur dans la chambre d'amis. Enfin, ma femme, elle fait ça. Hein. On remet des draps propres. On fait la poussière. On installe tout comme il faut pour que l'ami, l'invité, puisse être bien reçu, bien accueilli. On lui prépare une place. C'est vrai ou c'est pas vrai? Des fois, il y en a qui débarquent sans avoir prévenu, hein, mais c'est autre chose. Hein. Mais normalement, quand on est bien élevé, on avertit. Hein. Eh bien, mes amis, c'est ce que Jésus fait. Il prépare notre demeure là-haut. Et on peut être sûr que ce sera encore mieux que la chambre d'amis de chez Monsieur et Madame Rey. Ce sera le top. Ce sera parfait. Elle est belle, cette parole. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai vous chercher et vous prendre avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Je suis sûr, mais alors sûr, que le brigand, quand il a rendu le dernier soupir, il était dans une paix parfaite. Ça m'est arrivé de me tenir au chevet de chrétiens mourants, dans les quelques jours, même les quelques heures, et parfois à l'instant même où ils allaient partir. Et il y avait une paix parfaite. Hein? Je vous ai déjà raconté l'histoire de la mémé Gloria Dios. Nous avions à Toulouse une grand-mère et je l'ai toujours connue vieille, vous voyez. Hein? Je suis arrivé à l'église, j'avais 5 ans, elle est décédée, je devais avoir moi 23 ou 24 ans. Et alors quand elle est décédée, elle était très 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 vieille. Et nous les gamins, les enfants, les adolescents, on l'appelait la mémé Gloria Dios. Parce que comme elle était espagnole d'origine, souvent on prononçait cette phrase d'adoration, « Gloria Dios ». Alors la mémé, Gloria Dios, ben, elle est arrivée en fin de course et nous avons été la visiter. Et sa fille était désolée parce qu'une maman, c'est une maman même quand elle est âgée. Mais elle, Gloria Dios, parce qu'elle savait où elle allait. Elle avait la paix de Dieu dans son cœur. Quand vous partirez, est-ce que vous aurez une telle assurance? Pour l'avoir, il faut faire comme le brigand. Vous voyez, Jésus, il était là au milieu. Les brigands, l'un à droite, l'autre à gauche. C'est-à-dire que Jésus était à égale distance de l'un et de l'autre. Et pourtant, l'un fut sauvé, amen, et l'autre fut perdu. La chance, le privilège, l'avantage d'être sauvé, que le Seigneur a attribué à ce brigand qui se repentit, il aurait voulu la communiquer aussi à l'autre. Il était à égale distance. Mais chacun des deux a eu une direction différente. L'un a fermé son cœur, injure, blasphème, moquerie, incrédulité. L'autre l'a ouvert.
Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne.
Celui-ci n'a rien fait de mal. L'un fut sauvé, l'autre perdu. Cet après-midi, Jésus est là. Amen. Et chacun d'entre nous, nous sommes à égale distance de lui. Comprenez ça? Il n'est pas plus près de Jacqueline que de vous. Il n'est pas plus loin parce que Kevin, il est au fond de la salle, et alors il est loin de lui. Non, non, il est à égale distance de chacun de nous. Chacun de nous. Pour bénéficier de la grâce, comme en a bénéficié le brillant, eh bien, il faut faire comme lui. Si ce n'est pas fait, repentez-vous. Parce que même si vous n'êtes pas un criminel, un tueur, un assassin, vous êtes un pécheur. Et mettez votre foi en lui, croyant que tout est accompli. Ben oui, pour que vous soyez pardonnés, sauvés, et qu'un jour, comme le brillant, vous soyez accueillis dans le paradis. Amen. Il n'y a plus rien à dire, tout est dit. On se recueille quelques instants, s'il vous plaît. Notre Dieu.